Chers amis, bonjour. Chers auditeurs également. Je vous présente aujourd'hui une série assez exceptionnelle, à savoir que nous allons parler d'un château pour lequel déjà j'avais évoqué avec le propriétaire, M. Jean de Foucault, nous allons parler du conservatoire de la Pivoine. Je pense que nous sommes aujourd'hui bien placés avec le beau temps qu'il fait pour parler de la nature. Et en cela, Jean de Foucault a épousé une charmante épouse, Bénédicte, qui, elle, a monté le conservatoire de la Pivoine il y a une dizaine d'années. Donc nous allons parler, bien sûr, arbres, mais plutôt fleurs et plantes. Donc je présente nos amis, monsieur et madame de Foucault, qui sont propriétaires du château de Sourches, qui est un château français néoclassique, qui est sur la commune de Saint-Symphorien, près du Mans, et qui a été construit au XVIIIe siècle. Nous en avions parlé un petit peu avec Jean de Foucault, qui lui est expert en joaillerie, et également antiquaire, et excellent conseil pour acheter de très beaux bijoux anciens. Alors mon cher Jean, on va reparler un tout petit peu de ce château parce que il y a une petite découverte que vous avez faite en y mettant de la botanique dans les douves.
Bonjour à tous, merci Olivier de m'avoir réinvité. J'avais parlé la première fois de Sourches, de son architecture et de son histoire, mais tout ça est peu de choses à côté de ce que ma femme, Bénédicte, a pu réaliser en créant un jardin qui au départ était un jardin familial et qui est devenu aujourd'hui une activité presque touristique.
Elle est touristique.
Et qui est touristique, qui attire quand même pas mal de visiteurs.
10 000 par an.
À peu près. Et il se trouve que une passion ne s'explique pas. Moi j'ai une passion pour l'histoire et pour l'art, elle a une passion pour la botanique et spécialement, elle vous le dira mieux que moi, depuis son enfance pour les pivoines. Donc ces deux passions se sont rencontrées et si je puis utiliser cette image, on fait pas mal de petits. Voilà comment ça s'est passé.
En effet, pas mal de petits et on va le dire avec une jolie plante et surtout Bénédicte nous a apporté quelques spécimens justement depuis sa propriété ce matin. Et donc Bénédicte, bonjour, vous allez nous parler de votre passion parce que ici cette émission c'est une émission de gens passionnés et grâce à vous passionnante. À vous ma chère.
J'espère. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je dois vous dire pourquoi j'ai commencé.
Et comment oui, j'ai qu'est-ce créé qui vous jardin. A fait Alors, effectivement, Jean avait épousé une belle plante, mais vous avez multiplié les plantes, c'est
oui,
ça
absolument, voilà. C'est la multiplication des pins, voilà. Des pivoines. J'ai toujours aimé les pivoines, et il se trouve qu'en 2003, avec deux amis, on était partis pour Amsterdam, et sur un marché d'Amsterdam, on avise des vendeurs de bulbes. Et toutes les trois, on se met à parler de nos fleurs préférées. Donc, Marie-Blanche me dit « j'adore la pivoine ». Lorraine me dit « ah, c'est ma fleur favorite ». J'ai dit « bah, ça tombe bien, moi aussi, si vous voulez, on commence une collection ». Donc, chacune, nous avons acheté trois rhizomes de pivoine. Et puis, j'ai continué, elles ont arrêté, mais c'est pas grave. Elle m'encourage toujours et elle me demande toujours des nouvelles de mes pivoines.
On va parler aussi technique, bien sûr, mais avant tout, donc vous avez acheté vos pivoines et puis après vous les avez plantées. Vous avez acheté Sourches en quelle année, Jean ?
On est arrivé en 2001, on est arrivé mars 2001, ce qui veut dire que cette année, on fête notre 25e anniversaire.
Je sais pas, noces d'argent.
C'est les noces de pivoine, peut-être.
Peut-être
un quart de siècle.
Un quart de siècle, ça passe vite. J'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, puis quand je fais le bilan, bah, c'était il y a 25 ans.
Enfin, on monte les escaliers moins vite.
Oui, j'ai un peu de mal à monter dans ma chambre au second, mais je le fais toujours avec autant de plaisir. C'est formidable.
Il a pas l'air comme ça. C'est quand même encore une belle plante, ne vous inquiétez pas. Il y a encore de belles fleurs devant nous, mais une belle plante. Tout ça pour dire que vous avez donc commencé en 2001 en achetant cette propriété.
Oui, oui.
Et alors vous avez commencé à vous dire qu'est-ce qu'on va mettre dans les douves, ou, à part la restauration du château.
Je dirais que c'est venu deux ou trois ans après. C'est justement après.
Il y avait des
ânes
dans les douves.
Oui, les douves étaient...
Il y avait des vaches et des ânes dans les douves.
Le château tel que nous l'avons trouvé et qui avait été acheté préalablement par une marine japonaise qui avait pendant 15 ans écumé les châteaux de France et en tout cas s'était bien abstenu de les entretenir, je dirais qu'il était temps d'arriver, hein, il fallait reprendre les choses. Les douves étaient en désordre, pleines de broussailles, pleines de mauvaises herbes. Alors on a commencé par les déblayer, et puis l'idée est très vite venue à la suite de cette rencontre que Bénédicte vient de vous évoquer avec des pivoines lors d'un voyage à Amsterdam. On s'est dit, c'est pourquoi ne pas planter des fleurs. Enfin, c'est elle qui se l'est dit. Donc, elle a commencé là, après que nous ayons dégagé les douves, qui étaient évidemment...
Tout de suite, vous avez pensé à ça.
Non, au début, je m'étais dit, je vais me faire un petit jardin pour moi. Donc, j'avais planté ça à un endroit où j'étais supposée aller tout le temps. Mais en réalité, j'y allais jamais, puisque quand vous avez une maison comme ça, vous n'avez jamais le temps de vous asseoir.
Énorme. Alors, voilà. À ce propos, je peux me permettre de vous dire qu'on est bien sûr au printemps et que, effectivement, dans cette émission, je rappelle que c'est Art bâton rompu. Nous parlons avec Bénédicte de Foucault. De sa propriété avec son mari, et cette propriété, j'insiste, c'est évidemment le moment d'y aller, parce que c'est, on parle des pivoines, et que les pivoines, elles ont commencé à éclore le 16 avril en ouvrant votre propriété, et peut-être qu'elle aura encore quelques souvenirs début juin. Donc vous pouvez venir au château de Sourche, puisque nous parlons à bâton rompu, et on continue cette émission, tout ça pour dire que vous avez planté des premières pivoines...
Les douves, en 2008 seulement, j'en avais d'abord planté ailleurs, mais elles ont été mangées par les chevreuils et les sangliers, les lapins, donc après je les ai déplacées, et puis à la fin je me suis dit, je suis un peu fainéante, je vais les mettre en bas de chez moi, c'est-à-dire dans les douves.
Alors quand vous êtes allé à Amsterdam, vous avez eu ces belles plantes, mais... il faut les conserver. Donc, vous avez dû demander quel terrain faut-il, et on va parler un peu technique quand même. Parce que pour avoir de belles plantes, est-ce qu'il faut, ce genre de plantes, est-ce qu'il faut une terre humifère, qu'est-ce qu'il vous faut comme terre?
Il faut une terre à pH neutre, 7.
Ouais.
Et surtout une terre drainante. La pivoine, l'ennemi numéro un de la pivoine, c'est le champignon.
Oui.
Donc, il ne faut pas d'humidité au pied.
Oui, c'est pas mal quand on est dans les douves.
L'humidité aérienne, mais pas d'humidité au pied. Les douves sont sèches, La maison est construite dans les douves, donc les douves sont sèches.
Elles n'ont jamais été en eau.
Jamais. Il y avait forcément une gouille à un endroit pour la mare aux canards, mais il n'y a pas d'arrivée d'eau. On est en haut d'une roche, il n'y a pas d'arrivée d'eau là. La nappe phréatique, le puits, il est à je ne sais pas combien de mètres de profondeur.
Ah oui.
Alors, on avait dit 60 mètres, mais c'est un peu excessif, je crois.
Non,
enfin, c'est vrai qu'on
une
est sur une éminence, donc...
Oui, vous êtes assez asséché.
Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais quand même faire une mise au point, parce qu'on parle d'un château néoclassique, et on parle de douves.
Mais enfin, oui.
Alors, en fait, le château de Sourche actuel a été construit sous le règne de Louis XV, grâce à l'architecte Gabriel. Je dis parfois avec prétention que c'est le grand frère du petit Trianon, puisqu'il a été construit par le même architecte et en même temps. Seulement, il était construit sur un site beaucoup plus ancien. Voilà. En fait, Sourche, c'est 1000 ans d'histoire. Et quand on fait référence au Douvres, on s'intéresse à la période du Moyen-Âge. Et les douves ont été construites pour protéger le château ancien qui était là, qui n'existe plus, de l'invasion anglaise. Ça se passe au moment de la guerre de Cent Ans. Mmh. Donc on a des douves médiévales qui étaient complètement inutiles au XVIIIe siècle. L'architecture de défense n'avait plus de sens. Donc Gabriel a eu l'idée de poser le château actuel dans le quatrième bras des douves, ce qui nous vaut une très grande hauteur de plafond dans les sous-sols, puisqu'il faut rattraper la hauteur des douves qui est de 7-8 mètres, et qu'en plus le rez-de-chaussée surélevé d'un mètre 50 avec un perron.
Évidemment.
Donc on a des sous-sols assez remarquables, que nos visiteurs de Pivoine d'ailleurs traversent, puisqu'il fait partie du circuit de visite et qu'il apporte une petite touche supplémentaire à la botanique. Il les réintroduit un peu dans l'histoire, et notamment dans l'histoire récente, puisque c'est là qu'ont été hébergés la tapisserie de Bayeux, 400 tableaux du Louvre et quelques meubles de Versailles pendant la guerre. Ça, c'est, je résume très vite les aspects historiques, mais c'est pour situer le truc.
Voilà.
Donc la visite des pivoines, qui est passionnante et qui en fait attire le monde, attire le public, peut se compléter d'une petite prise de connaissance de l'histoire des lieux, ce qui n'est pas désagréable.
Et avec un petit salon de thé charmant, et vous pouvez y aller dès aujourd'hui et jusqu'à la fin, comme je vous dis, du mois de mai.
Oui, en ce moment, c'est fondant à l'orange et fondant au citron.
Fondant à l'orange et fondant au citron.
Je recommande le fondant au citron. Oui. Visite personnelle.
Un peu comme les étamines de ces superbes pivoines.
Exactement.
Les étamines, oui, je vois
les étamines,
rapport.
Oui. Dans les pivoines, vous avez plusieurs sortes de pivoines. Vous avez des pivoines simples, vous avez des pivoines doubles, je n'en ai pas apporté. Vous avez des pivoines semi-doubles. Et ce qu'il faut voir, c'est que vous avez plusieurs sortes d'étamines. Vous avez celle-ci, par exemple. Celle-ci que je vous montre. Vous voyez ces étamines ? Le pollen est tout au bout de la tige.
Totalement.
Essayez de les décrire, voilà. Parce qu'à la radio, on ne voit rien.
Ah ben là, vous avez des étamines qui sont pourvues de pollen uniquement à leur extrémité. Ici, vous avez des étamines qui sont constituées uniquement de pollen. Donc, elles sont plus épaisses. Et ici, vous avez des étamines qui ne se voient pas, bien entendu, puisque ça, c'est...
La fleur n'est pas encore...
Elle n'est pas encore ouverte, voilà. Mais même, vous ne la verrez pas, je vais vous la laisser, elle va s'ouvrir, elle va devenir une énorme boule. Et en fait, ce sont des pétaloïdes et qui dissimulent tout au fond des étamines.
Très bien.
Plusieurs formes de pivoines qu'il faut admirer, parce que c'est maintenant qu'on voit le plus de sortes de pivoines, plus de formes.
Plus de formes et de couleurs, bien sûr. Donc, vous mettez ces... Vous avez commencé donc avec quelques pieds. Alors, les rhizomes, qu'est-ce que c'est que des rhizomes ? Parce qu'il faut expliquer aussi ce que c'est qu'un rhizome.
Ah, les rhizomes, hein, ça ressemble à quelque chose de très, très moche. Ça ressemble,
oui,
à des gros...
Des oignons ?
Des grosses carottes.
Oui, c'est ça.
Marron.
Oui.
Si vous les coupez, à l'intérieur, c'est blanc ou bien... Parfois, ça peut être jaune. Il y a très peu de pivoines qui ont des rhizomes jaunes, mais j'en ai deux, moi. Ou alors, légèrement rose. Et c'est... sur ce rhizome que se forme le bourgeon et de ce rhizome que vont partir les racines.
Les
Donc
racines.
En fait, c'est le tronc après, commun de, voilà, la plante.
Et puis après, les tiges. Alors expliquez-nous de trois pieds, si je puis dire, de trois rhizomes. Aujourd'hui, vous en avez combien dans vos douves ? Que les auditeurs écoutent bien, parce que le conservatoire de la pivoine, c'est quand même un terme assez exceptionnel.
Alors... dans mon ordinateur, il est listé 3210 variétés et j'en ai à peu près 900 en nurserie qui attendent d'être vérifiées et de rentrer dans le conservatoire. J'ai à peu près 150 cadavres que je dois retrouver, mais qui sont des pivoines rares, ça va être trop compliqué. Voilà, plus de 3000 variétés.
Alors, quand vous parlez de votre conservatoire, plus exactement votre nurserie, ça consiste en quoi exactement pour nos amis qui vont venir vous voir ?
Voilà, alors il y a le conservatoire qui est ouvert au public et il y a la nurserie qui est là où je travaille les pivoines, où il y a tous les doublons du conservatoire, où il y a les greffes, où il y a les semis et où il y a celles qui sont en attente de rentrer dans le conservatoire. Donc ça, c'est pas ouvert au public.
Bien évidemment. Voilà. Vous êtes seule, Bénédicte, à faire ça ou vous avez un peu d'aide ?
Ah non, alors au début, on a commencé avec... la première, je l'ai plantée toute seule. La millième, je l'ai plantée avec Nicolas, qui a renoncé en 2013. Ensuite est arrivé Morgane, Eugène. Depuis 3 mois, il y a un jeune homme qui s'appelle Alexis. Donc en fait, on est 3 jardiniers.
Que vous avez recruté de quelle manière ? Parce que ça peut intéresser aussi nos auditeurs de dire, après tout, moi je ne serai pas dans un bureau, je ne serai pas forcément fonctionnaire ou je ne serai pas expert. Et pourquoi les plantes, ça peut m'intéresser. Et...
C'est un boulot de chien.
C'est un boulot de chien,
alors,
bien sûr.
Fainéant, s'abstenir déjà.
Bien sûr, non, mais à Radio Courtoisie, on n'a pas de fainéant, on n'a que des gens à la fois courtois et laborieux.
Et justement, c'est un travail un peu laborieux. En fait, pour entretenir les pivoines, il faut qu'elles soient... que le pied soit dégagé, qu'il n'y ait pas d'envahisseur. Donc, le pissenlit, il faut s'abstenir. L'herbe, à la rigueur, ça peut aller. Mais il faut que le terrain soit aéré régulièrement. Sauf, bien entendu, si vous habitez dans le sud, là, il n'y a pas de problème. Mais dans le nord, avec les pluviométries qu'il y a au nord de la Loire, il faut aérer le terrain. Donc, il faut passer régulièrement, désherber.
Enfin, la pivoine, on ne la trouve pas dans le sud. Ça dépend dans quel sud.
Il y en a.
Sud-ouest, peut-être, mais...
Non, mais regardez les établissements Rivière, là, le plus grand créateur de pivoine français, qui résiste encore, j'espère. Il est dans la Drôme.
Oui, ça, c'est encore un petit peu humide, quand même. Mais quand je dis humide,
c'est humide, la Drôme.
Je m'entends, les terrains ne sont pas ceux d'Aix-en-Provence, encore, ouais. Ou même le sud de la France. Je pensais plutôt, moi...
Alors, Marguerite Descartes, qui a planté des pivoines...
Ancienne propriétaire.
Oui, ancienne propriétaire de la maison. Elle a planté des pivoines dans sa maison du sud, qui est, je crois, du côté d'Aix-en-Provence.
Ah oui.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Et elle les a mis à mi-ombre. Et ça fonctionne.
Et c'est vous qui lui aviez donné cette bonne idée de mettre des
pivoines? Je ne sais plus.
Vous ne savez plus.
Vous êtes au milieu des pivoines. Je pense que c'était avant que nous nous rencontrions.
Ah non, oui. non,
les amis. Vous ne pensez pas?
Non. Je crois qu'elle les avait prises à la maison, justement.
Concorde, dans ce cas-là, c'est d'autant plus flatteur.
Oui. Donc
ça fonctionne dans le ça fonctionne à Aix-en-Provence, mais les pivoines, faut bien se dire, ce que les gens visitent, ce que les visiteurs voient à la maison, ce sont des hybrides de 35 espèces existantes sur la planète. Les espèces sont celles que l'homme n'a pas touché.
C'est l'origine.
Voilà, c'est la première pivoine. Il y en a 35 genres, 35 espèces.
Et que depuis, vous avez toutes au départ.
Il vous en manque une. Ouais. L'américaine. Il manque l'américaine.
Alors justement, vous me parlez de. On parle justement où on peut en trouver ces 35 espèces.
Oui.
Elles sont dans les différents pays d'Europe, de France.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'en arrive là. En fait, vous avez la Turcica qui est originaire de Turquie. Vous avez la Corsica de Corse. Vous avez l'Hellenica de Grèce. Vous en avez même en Iran sur le mont Elbrouz. Donc, vous avez des variétés qu'on retrouve comme ça dans l'hémisphère nord, un petit peu partout, entre Tokyo et
Oui, on peut peut-être
Londres,
dire.
Vous voyez, une ville comme ça
aussi,
à peu près.
En Chine
également, oui.
Oui. Donc, et vous avez beaucoup voyagé pour...
Vous voyagez encore. Oui.
Parce que les 35 espèces, vous les avez récupérées comment?
Oh, alors ça, vive Internet.
Ah, vive
J'avoue,
Internet.
Vive Internet.
Ah oui.
Moi, je vais voir les nurseries dans le reste du monde. Si le terrain m'intéresse, si je vois que les gens qui travaillent la terre n'utilisent pas de... pesticides en abondance, traitent convenablement les pivoines, que les pivoines sont saines, que les plants sont sains, à ce moment-là, je leur commande. Sinon, je passe mon chemin.
Carrément.
Voilà. Ah oui, non, parce que je ne peux pas me permettre d'avoir un plant qui
alors, aujourd'hui,
contamine tout le reste.
Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va voir à source donc, ces pieds de pivoine, si on peut dire, ces plantes fleuries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous en avez depuis 20 ans, 25 ans, les mêmes pieds,
oui.
Que vous avez amélioré, vous avez divisé, et puis vous avez donc renouvelé également.
Tous les ans, j'en rachète, parce qu'il y a des nouvelles créations, donc j'essaye de rester à jour.
L'hybridation, vous ne la faites pas?
J'ai essayé, je pense.
C'est compliqué.
C'est très compliqué. Vous
c'est
savez,
autre chose. C'est peut-être un autre métier.
C'est 15
métier.
Ans hein, pour faire une pivoine.
Et justement, j'allais vous demander combien de temps pour avoir une belle pivoine dans un jardin magnifique comme le vôtre.
Alors, si vous l'achetez, si vous achetez un plant chez un horticulteur spécialisé, donc je ne sais pas si j'ai le droit de dire des
bien
noms.
Sûr, mais bien sûr, si, bien sûr.
Pour
ne
pas
sûr.
Commettre
j'ai
de...
bien donné votre nom et j'ai bien donné le nom de votre belle propriété, le château de Sourche.
Voilà.
Ah, on peut y
aller. Moi, je recommande toujours d'acheter en France les pivoines chez M. Rivière dans la Drôme ou chez M. Tricot à Orléans. Ce sont des gens bien, ils travaillent la terre de France, des bons plants, c'est sain, il n'y a pas de saloperie dans la terre, tout va bien. Donc avec ça, vous aurez des belles plantes.
En France, on a des belles plantes.
Voilà. Et... si vous achetez un plant chez ces deux entreprises-là, vous allez le planter et au bout de 3 ans, vous aurez une belle plante, si vous l'avez plantée convenablement, c'est-à-dire dans un sol bien drainant, au soleil du matin de préférence, plein soleil, ça peut aller aussi. Et voilà.
L'arrosage, c'est quoi l'arrosage?
Vous arrosez à la plantation et vous comptez sur...
Bien sûr, l'atmosphère.
L'atmosphère, voilà.
Et ça, généralement, ça peut sécher une...
Oui.
Oui, il faut donc quand même veiller à ça.
Alors, non, s'il y a une canicule, pendant 4 mois, il n'y a pas d'eau, il faut arroser. Mais ça, c'est le bon sens.
Bien sûr.
Il n'y a pas de prescription. En fait, normalement, en France, on a un climat tempéré, océanique, tempéré ou continental. Ça, c'est les trois climats conviennent à la pivoine.
Très bien.
Il n'y a pas besoin de s'en soucier. Mais si on a 6 mois de canicule, il faut arroser.
Bien sûr. Et vous avez une terre à Sourche, qui est une terre un peu lourde ou vous
Oui,
avez...
j'ai une terre lourde. Alors, pour certaines pivoines, ça fonctionne. Pour peu que ce soit drainant, toujours.
Oui, il faut que ce soit drainant.
Voilà. Et...
un peu comme les rosiers, d'ailleurs, hein, entre nous.
Oh, le rosier, ça se débrouille dans...
Mais enfin, il faut une bonne terre un peu lourde, quand même. Hein.
Pour le rosier, il faut une terre un peu lourde. Pour la pivoine, si elle était un petit peu plus légère, ça, c'est...
Vous avez un peu de rosier aussi chez vous?
Moi, j'ai des rosiers, oui. Ils sont destinés à nourrir les chevreuils. Comme ça, ils
oui,
touchent
c'est
pas
vrai,
mes,
on les voit à l'extérieur de cette magnifique propriété.
Voilà, ils sont ratiboisés.
Ouais, c'est plutôt embêtant. Alors, donc, la pivoine, variété, donc espèce... 30 espèces. De ces 30 espèces, on arrive alors à ouvrir, je dirais, l'éventail.
L'éventail de...
3000, 5000...
Moi, j'en ai 3002, mais je pense que depuis 2000 ans qu'on crée des pivoines et qu'on inventorie les pivoines, parce que c'est ça aussi, il faut les nommer et les... comment ça s'appelle les, oui, il faut une nomenclature... Et si elles ne sont pas enregistrées, en fait, elles sont perdues. Donc, toutes les pivoines qui ont été nommées depuis, je dirais, le 19e siècle en Europe et même en Chine ou au Japon, il y en a eu, je pense, à peu près 8-10 000. Et plus de la moitié ont été perdues.
Plus de la moitié ont été perdues.
Oui.
Et aujourd'hui, avec l'hybridation, on arrive quand même à refaire autre chose?
Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les hybrideurs, les péonistes, notent. C'est cette manie de noter les croisements, ça vient du professeur Sanders, un Américain, de Lemoine aussi, un Français, mais du professeur Sanders aux États-Unis. Donc, il a commencé à hybrider de la pivoine vers 1920. Jusqu'en 1953, il a tout noté. Du coup, il a fait des émules et les nouveaux Américains, les nouveaux péonistes américains notent également. Donc, en fait, on a une traçabilité
depuis 100 ans.
De la génétique depuis à peu près 100 ans.
Et
ça, c'est très intéressant.
Parce que...
Avant, on n'a pas.
On n'a rien
avant,
du tout. Autant sur la tulipe, on avait, quand on voit certains livres anciens, on a,
ouais.
Bien sûr, parce que les Hollandais ont été les premiers. En France, la tulipe était quand même quelque chose de très précieux. On a fait même en céramique des tulipières pour justement mettre ces plantes, je dirais, assez rares à l'époque. Et donc, pour la pivoine, on n'a pas de documentation très, très ancienne.
Alors, non, et la raison est juste financière.
Ah,
la
oui.
Pivoine ne rapporte pas.
Parce que
la tulipe rapporte énormément.
Parce que la pivoine ne s'exporte pas.
Elle peut s'exporter,
mais
la durée, la floraison d'une pivoine, c'est 10 jours.
Voilà. Ah, voilà.
Voilà. Ouais. Vous achetez un bouquet de tulipes, si vous l'achetez à peine éclos, vous le mettez dans votre vase, ça dure 20 jours.
Voilà.
Une pivoine, vous la coupez, vous la mettez en vase, allez. Si vraiment vous...
Maximum.
Voilà, 10 jours.
10 jours.
Et ça tient moins le transport que que les tulipes.
Oui, tout ça s'explique.
Ouais.
Ça s'explique.
Donc comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rigueur, enfin si je puis dire. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de recherche, donc il y a moins de rigueur.
Et vous faites vous-même des recherches importantes sur une couleur, par exemple, ou sur la façon dont une pivoine se porte sur un, je dirais, dans la plante en tant que telle. Est-ce que vous vous dites pas, tiens, ben, cette année, j'ai fait telle et telle plantation, ça marche ou c'est beau ou c'est moins beau?
Ah, tout est noté dans mon ordi.
Tout est noté.
Et dans ma tête aussi.
Dans votre tête, mais vous transmettez aussi sur ordinateur.
C'est dans mon ordi et en fait je vais faire une conférence là au Canada, donc je transmets et je vais rencontrer plein de péonistes à cette occasion-là, donc début juillet, je vais pouvoir leur expliquer, notamment un hybrideur américain qui crée des pivoines, des hybrides modernes, intéressants, et je vais pouvoir lui dire ce que ça a donné chez moi. Parce que je l'avais vu il y a 5 ans et je vais pouvoir lui expliquer.
Et est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que ce que vous venez de m'offrir, c'est-à-dire 4 très beaux fascicules, c'est des petits livrets, et des miscellanées de sources par Bénédicte de Foucault que j'ai devant moi, comment découvrir les pivoines de sources, donc, parce que c'est le conservatoire de la pivoine, je vois hommage au poilu, l'Olympe de Nassos d'Athnis, les péonistes français, et alors là, le quatrième tome, Toichi Ito, et le troisième genre. Est-ce que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait?
Oui, 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 Toichi Ito et le troisième genre. Ouais.
C'est 4 volumes qui retracent exactement vos découvertes, ce que vous avez, qu'est-ce que nous avons là?
Alors,
On peut en parler.
Ce sont des tomes qui mettent en valeur les pivoines et l'importance de la pivoine à travers l'histoire et Sourche à travers la pivoine. En fait, c'est un jeu de ping-pong entre Sourche et la Pivoine. Le premier, c'est Hommage aux Poilus. Chaque année, le maire du village organise au Monument aux Morts, le 11 novembre,
oui.
Une cérémonie pour rendre hommage aux Poilus. Alors là, ce petit fascicule, donc il y a un décart qui est mort à la guerre de 14, peut-être deux, même, je ne sais plus.
Ancien propriétaire du château.
Ce que je trouve un petit peu déplorable, c'est que, en fait, je sais bien que les maires n'ont pas trop de temps, ils font ce qu'ils peuvent, mais on décale la célébration du 11 novembre au 8 novembre, parce que ça arrange tout le monde. Bah oui, mais le dernier qui est mort en 1918, le 11 novembre, avant l'heure de l'armistice, à 10h45, il n'est pas mort le 8 novembre, il est mort le 11 novembre. 600 ans après, on décale de 3 jours, de 1 semaine, et dans certains endroits, on ne le célèbre même plus. Enfin, à quoi bon ? Ça sert à quoi d'aller faire la guerre pour que 100 ans après, on soit ignoré à ce point-là ?
Bon, enfin, bon, bref. Donc, ce que vous dites, c'est vrai d'ailleurs.
Et puis, nous avons eu un président, il faut le dire, qui en 2014, au moment de l'armistice, au moment de la déclaration de guerre de 14, nous avons eu un président qui a dit « Nous allons célébrer la déclaration de guerre de 1914 ». Moi, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de grandes écoles, mais qu'un président de la République qui a fait l'ENA se permette de dire nous allons célébrer la déclaration de guerre, ça, mon sang n'a fait qu'un tour.
C'est affreux, mais c'est
parce
affreux.
qu'on peut s'attrister de ça, on peut peut-être commémorer, mais célébrer une déclaration de guerre qui a fait tant de millions de morts, ça m'a énervé. Par ailleurs.
Bravo, mais il faut le dire.
Oui.
On peut dire beaucoup de choses sur Radio Courtoisie et surtout la vérité.
Vous voilà. Allez faire croire que les pivoines ont des épines, faites attention, c'est
ouais,
le
moi
village
j'en ai
des roses.
Par ailleurs, quand je plante mes pivoines, j'essaye de savoir pourquoi, qui est Edith Cavell.
Voilà, ah oui, bien
parce
sûr.
Que certaines pivoines sont nommées de noms de personnages célèbres ou complètement inconnus aujourd'hui. Et en fait, quand vous découvrez que Edith Cavell, c'était une résistante, bah vous cherchez un petit peu plus. Après, là, vous avez Lafayette Escadrille. Qui ne connaît pas
bien
Lafayette
sûr.
Escadrille ? Donc, il y a quand même une pivoine qui a été créée par un certain Pearson aux États-Unis pour... pas célébrer, mais honorer la mémoire des ailes de américaines. Sarah Bernhardt, qui est allée chanter sur le champ de bataille. Voilà. Souvenir d'Agrecourt. Souvenir d'Agrecourt, c'est un village qui a été complètement détruit. Enfin voilà, Victoire de la Marne. Voilà. Donc moi,
vous avez fait un premier volume très intéressant.
Ça.
Moi, je vais me pencher là-dessus. Justement, au point de vue historique, c'est passionnant. Au point de vue mémoire, bien évidemment, et au moins on rappelle effectivement ce qui s'est passé. Je comprends très bien. Bénédicte.
Et c'est la pivoine l'histoire, parce qu'en réalité, la pivoine, comme les roses, comme les fleurs, ça célèbre toujours un instant de l'histoire.
Tout à fait, voilà.
Avec des personnages ou des lieux.
Et
ou...
alors, je pense que votre mari n'écoute pas, mais quand est-ce que vous faites la pivoine Jean de Foucault ? Vous y avez pensé ou pas ? Faire une pivoine Jean de Foucault. Et peut-être que...
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une pivoine Bénédicte de Foucault.
Alors justement, j'allais vous demander si vous alliez en faire une. Elle existe déjà.
Mais pas du tout, c'est pas moi qui ai eu cette bonne idée, c'est Rivière.
Non,
c'est Pardot.
Pardot, c'est un antiquaire.
Il a disparu.
Voilà.
C'est un ancien antiquaire j'ai
Pardot.
Connu comme antiquaire,
oui,
qui s'appelait Pardot.
Robert Pardot.
Bien sûr.
Oui.
Qui
ah,
a fondé un jardin qui a fondé une entreprise qui produisait des fleurs et notamment des pivoines, qui s'appelait la pivoine bleue, parce que la pivoine 2, c'est le rêve inaccessible de tous les péonistes, puisqu'il n'y a pas de pivoine bleue. Donc on cherche à en créer une et puis on n'y arrive pas pour l'instant. Et il a eu la délicatesse, il y a au moins 10 ou 12 ans, d'en dédier une à Bénédicte. Donc il y a une pivoine, Bénédicte de Foucault.
Alors elle est dans quel bouquin, là ?
Elle n'y est pas dedans.
Alors on va répondre, justement. On va faire peut-être un petit instant, puisqu'on a
musique.
Déjà une petite demi-heure déjà de conversation.
Ça passe vite avec vous. Hein.
Pardon ?
Ça passe vite avec
ça
vous.
Ça passe vite, mais les fleurs ne passent pas vite avec moi, parce que j'avoue que c'est un instant d'éternité, et c'est magnifique. Et je remercie donc Bénédicte et Jean de Foucault d'être à cette émission aujourd'hui pour parler des pivoines. Mais on va écouter aussi un peu de musique, non pas du piano, mais on va écouter, parce que ça n'est pas ce qui a été choisi par Bénédicte de Foucault, mais plutôt un petit morceau de notre ami Vivaldi, qui a été l'un des virtuoses du violon, l'un des plus célèbres et des plus admirés de son temps, bien évidemment, et on va écouter un petit morceau que vous devez préférer. Je ne me souviens plus lequel, mais ça va arriver. Merci Benoît.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Eh bien, nous allons reprendre notre émission après ce beau concerto pour mandoline de Vivaldi. Et nous avons également des passionnés. On a une intervention directe de Paul, qui souhaite rester anonyme, mais il n'est pas si anonyme que ça, puisqu'on va lui répondre. D'abord, bonjour à toute l'équipe, nous met-il. J'adore les pivoines arbustives, car c'est flatteur à voir. Et c'est increvable en ne demandant aucun soin particulier dans mon jardin qui est méditerranéen. Bénédicte va nous répondre. Une question, la pivoine est-elle comestible ? Je bois du thé à la pivoine. Alors, ça va être une question. Et puis, il y aura une autre question. Ça sera posé à son mari, Jean de Foucault, pour répondre sur les ascendances éventuelles de la famille. Mais pour le moment, on est sur les espèces, sur les pivoines. Et donc, Bénédicte, vous pouvez nous dire ce que vous pensez donc de cette question?
Honnêtement, je sais, il y a eu des tests de fait, donc je sais que la pivoine Bardzella a des pétales comestibles, ainsi que la pivoine Red Charm. Rien n'est moins sûr pour tout le reste. Je les ai goûtés. C'est très amer. Je ne pense pas que ça ait une vertu culinaire formidable. En revanche, pour le thé à la pivoine, alors là, je ne sais pas. Il y a énormément de thé à la pivoine qui se vendent en Chine. Mais quand je vois les champs en Chine, je ne vous recommande pas de boire du thé à la pivoine. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Mais attention, danger.
Attention, danger.
Pourquoi ?
Je pense que c'est beau être pesticide.
Voilà. Bruit de pesticides, mais oui, il y a une raison.
Ouais.
Mais alors, je fais une petite incise, ou tout au moins, je dégage une partie de notre conversation. J'ai vu que vous vendiez des bougies. Est-ce que ça sent la pivoine ou c'est une bougie commémorative?
Alors, les pivoines que je viens de vous apporter, elles sont très mauvaises.
Oui, elles sentent pas bonnes. Celles ne sont pas vraiment très bonnes, effectivement.
Ça sent le pollen. Ça sent le pollen.
Ah, bah oui, bien sûr. Bah, c'est parce que c'est l'époque aussi.
Mais les pivoines doubles, il y a certaines pivoines doubles, qu'elles soient arbustives ou
on va reparler,
herbacées.
Herbacées.
Certaines pivoines arbustives sentent très bon. Et j'ai remarqué que certaines pivoines, notamment les arbustives issues de Rocky.
Issues de
Rocky, une espèce botanique, elles captent l'odeur environnante. Quand mes lilas sont en fleurs, alors que mes lilas sont à 500 mètres, elles sentent le lilas. Quand mes iris sont en fleurs, alors que mes iris sont à 800 mètres, ça sent les iris. J'ai des iris bleus qui ont une odeur très précise.
Et une complicité, donc, d'après vous.
J'ai pas d'explication. Je vais demander au mois de juillet aux Américains s'ils ont une idée ou s'ils peuvent faire une recherche, parce que là-bas, ils ont des moyens de faire des recherches, pour savoir s'il n'y a pas une captation de molécules de la part de la pivoine. Je ne sais pas, je dis ça, mais je...
Et vous dites des Américains, alors qu'ils sont quand même beaucoup plus récents dans l'horticulture et autres que nous, les Français.
Ils n'ont pas de problème d'argent, les Américains.
Ah, c'est à ce niveau-là que ça se passe.
C'est toujours pareil, les
et
recherches,
là-dessus, ça coûte cher. Ce que vous venez d'observer, ce qui est passionnant, l'interconnexion, je dirais, de l'odorat, ça n'a jamais, on n'a jamais parlé de ça. Il n'y a que vous qui avez observé
Je ne l'ai jamais entendu. J'ai jamais rien lu là-dessus. Alors, c'est peut-être moi qui me fais un film. Je ne sais pas.
Peut-être qu'on va avoir quelqu'un qui va nous répondre.
À la fin de la saison, quand les pivoines, les tardives fleurissent, elles ont toutes à peu près la même odeur, c'est-à-dire la rose, parfum très fort de rose. Or, mes rosiers sont en fleurs.
Oui.
Donc,
voilà. Il y a un rapport.
Une transmission.
La nature est extraordinaire, là aussi. Alors, parlez-nous justement des arbustifs, des hybrides. Je crois que Jean, vous aviez une petite idée là-dessus.
Ah non, mais
il sait tout.
Je sors le peu que j'ai retenu de toutes les explications de Bénédicte dans le but d'être concis. Donc j'ai compris qu'il y avait des arbustives, j'ai observé qu'elles fleurissaient en premier.
Ouais. Et qu'elles sont sur des petits arbres,
dont l'hiver, nous voyons comme des bois morts qui restent dans les massifs alors que les herbacées disparaissent complètement, comme le font les tulipes. Et puis, herbustive, herbacée, et puis aussi, mais ce serait mieux si c'était Bénédicte qui vous en parlait.
Mais on va parler.
Des intersectionnels, des hybrides intersectionnels, le mot est savant, mais c'est le mariage de ces deux précédentes catégories qui a été inventé par un japonais qui s'appelait Ito, et donc on a tendance à appeler cette troisième série, des Ito, pour ne pas dire toujours des hybrides intersectionnels. Et voilà, donc si vous voulez en dire un peu davantage, Bénédicte, je vous le laisse faire. Moi, je ne suis que le modeste interprète de ce que vous m'avez déjà expliqué.
Enfin, je rappelle quand même
il
que...
a tout bien retenu. Ouais, c'est formidable.
Mais retenez bien, vous, chers amis auditeurs, d'aller dans cette superbe propriété. Je me répète, mais tout le monde ne prend pas l'émission au même moment, car il est 12h39 et que certains sont à table, d'autres sont en train de réfléchir à ce qu'ils feront le week-end prochain. Je crois que c'est tout réfléchi. Allez donc au château de Sourches, à côté du Mans, voir cette collection de pivoines exceptionnelles. Donc, qui a ouvert grâce à monsieur et madame Jean et Bénédicte de Foucault cette propriété qui, dans ses douves, a un conservatoire de la pivoine. Je reviens là-dessus. Donc, vous pouvez nous parler, ma chère Bénédicte, justement de ces trois catégories, je dirais, de reconnaissance.
Alors, trois genres de pivoine,
trois
ou sections, parce qu'en réalité, si on parle sur le terme américain, alors je vais du coup pas parler parce que je veux pas mettre une pièce dans le cochon.
Non.
Mais
vous pouvez quand même dire un mot parce que c'est quand même l'Amérique, on peut lui rendre hommage sur
beaucoup de
choses.
On appelle ça un genre normalement en Europe, mais les Américains ont appelé ça section. Ils ont plus de poids que nous, donc forcément maintenant on parle de section. Donc là, il y a la section arbustive qui se tient sur des bois et comme mon mari vous l'a expliqué, qui fleurit de manière plus précoce. Ensuite, les herbacées qui fleurissent parfois, fleurissent les plus tard dans la saison, qui sont beaucoup plus courtes, elles mesurent un mètre, pas plus. Et issues de croisement de ces deux sections,
grâce à Toichi Ito,
il y a ce qu'on appelle un hybride intersectionnel. Mon mari vous l'a justement dit,
pour une fois que je connais un mot savant, voilà. Je le colle au lieu dans de la dire conversation.
Hybride intersectionnel, on dit Ito parce qu'en fait les gens oublient, ils se trompent. Donc en fait c'est les pivoines de Ito.
Ah, les pivoines de Ito.
Voilà. Et qui est phénoménal. Qui est phénoménal parce qu'en réalité, tout le monde a essayé depuis le 19e, de créer ce croisement et personne n'y est parvenu, sauf Toichi Ito, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un Japon totalement dévasté. Il a quand même réussi à trouver du pollen, le pollen d'une pivoine arbustive qui avait été créée par un Français, Lemoine, au début du 20e siècle, qui était déjà parvenu au Japon en 1930, qui s'était bien installé et qui a pu produire du pollen en abondance pour polliniser une petite pivoine japonaise. Et voilà.
Eh bien, on nous pose une question.
Alors là, c'est une question savante.
Une question
a-t-on réussi à obtenir une variété qui s'éclaircit au fur et à mesure jusqu'à devenir presque blanche?
Oui. Alors voilà, là, on parle de Coral Charm. Il y a une espèce botanique qui s'appelle la Lobata. La Lobata, c'est une pivoine qui peut avoir des racines, des rhizomes. Je vous ai parlé des rhizomes tout à l'heure en vous disant que certains étaient blancs, certains étaient jaunes, certains étaient roses. Donc, les rhizomes des Lobata sont légèrement rosés. Quand vous utilisez le pollen ou les graines d'une Lobata, vous pouvez croiser ça avec une pivoine rose ou une pivoine blanche. Vous obtenez quelque chose parce que... Croiser une Lobata avec une blanche, vous allez obtenir quelque chose qui est corail. Mais le type même de la Lobata, c'est qu'elle fleurit rouge au départ, elle devient légèrement rose ensuite et un peu jaune paille et ensuite complètement blanche.
Dans quel délai ?
Le temps de la floraison.
La floraison, c'est-à-dire 20 jours
le
ou 10
bouton,
jours.
Le bouton est rouge, la fleur ouverte est
blanc,
corail sombre. Ensuite,
on dirait une tulipe, là.
Elle devient corail clair, ensuite elle devient jaune paille et ensuite elle devient blanche. Ça, c'est typique de la Lobata.
Donc, c'est une espèce...
Une espèce botanique qui a été hybridée.
Qui a été
pour
hybridée.
Pour ces vertus-là.
D'accord. Alors, on reprend nos petits fascicules.
Il n'y avait pas une autre question ?
Alors, il y a beaucoup de questions.
Nous sommes apparentés au père de Foucault, ben
ah
non,
oui, voilà.
Notre nom s'écrit F-O-U-C-A-U-D, le père de Foucault c'était F-O-U-C-A-U-L-D.
Oui.
Mais en revanche, je peux vous dire que mon grand-oncle, le général Muto, quand il était à Saumur, a fait les 400 coups avec le jeune Charles de Foucault. Et ils sont restés toute leur vie en relation. Et un dernier message qui a été écrit par le père de Foucault à Tamanrasset, avant d'être massacré par les Touaregs, je crois, en 1917, était adressé à mon grand-oncle, où il lui disait « Mon cher Jules », il s'appelait Jules, moi aussi d'ailleurs, en son souvenir, c'est mon sixième prénom. Et mon cher Jules, les Allemands sont pires que les Huns et les barbares. Enfin, ils faisaient toute une sorte de réquisitoire contre l'Allemagne. Et j'ai gardé ce document. Ça fait partie des choses que je conserve à Sourche dans nos archives familiales. C'est particulièrement émouvant puisque je crois d'après la date, presque un des derniers messages qu'a pu envoyer le père de Foucault. Donc, ce n'est pas du côté Foucault, c'est du côté de ma mère. Ça n'a donc aucun rapport avec la famille. Mais en revanche, c'était une relation amicale qui a duré toute une vie. Voilà, ce que je peux dire, c'est pas la moindre des choses.
Et de la généalogie familiale Foucault, on va passer à un petit mot qui m'a été envoyé par Titus, qui souhaite garder l'anonymat, et qui me dit, je lis que le mot pivoine, non pas vient de la famille Foucault, mais du dieu grec guérisseur Pan. Est-ce que la plante a des vertus médicinales ?
Alors,
la pivoine se multiplie-t-elle spontanément ou bien est-elle stérile comme les hybrides ? Encore, des couleurs sont-elles génétiquement impossibles chez les pivoines ? Alors on reprend. Cher Bénédicte.
C'est savant.
C'est très savant et j'avoue que je suis très touché de voir que nos amis passionnent effectivement en cette période du printemps toutes nos émissions et qui aujourd'hui nous permettent de voir que la pivoine est au centre de la journée.
Alors, Pour répondre à la première question sur le dieu grec, oui, effectivement, on parle de Pan, Péon, dans la mythologie grecque, mais on en parle également dans Homère. Donc, il est cité à plusieurs reprises. Il y avait également Asclépios, il me semble, Asclépios, qui était le
médecin. Et puis, il y avait Pan et Syrinx, mais je ne sais pas si c'est un rapport, Pan et Syrinx, mais je ne sais pas le rapport exactement. Ben là, on étudiera.
On utilise des graines de pivoine pour faire vomir à un moment, je ne sais plus qui, dans la mythologie, et c'est repris dans Homère. C'est un émétique.
Un émétique.
Voilà. Les vertus médicinales, je sais pour avoir testé et fait de l'eau de pivoine, et on a distillé de l'eau de la pivoine, ça a un côté astringent qui est pas mal. Vous mettez ça sur la figure, le lendemain, vous avez une peau de bébé, c'est formidable. Mais bon, il faut exploiter ça.
C'est moi, bon, je suis
oui, oui, voilà. Peau de bébé à notre âge, je trouve que c'est très très bien. Voilà.
Une façon de retomber en enfance.
Oui, c'est ça. On mettra des pivoines sur notre tombe, peut-être que ça nous permettra de nous régénérer.
La pivoine se multiplie-t-elle spontanément? Oui, pour les pivoines botaniques. À 50% pour les hybrides. Certains hybrides sont totalement stériles. D'autres hybrides sont fertiles.
Comment on peut le savoir? C'est de l'observation?
Alors, le pollen, en fait, vous prenez le pollen, oui. Vous le mettez sous une lampe, vous voyez si ça se multiplie ou pas. Donc, vous savez si le pollen est stérile et fertile. Et pour la graine, il faut la tester. Vous la plantez. Puis, si 3 ans après, vous avez une petite plantule, youpi, dans la joie.
3 ans après.
Voilà. Minimum.
Oui, je crois. Voilà. C'est ce qu'on disait d'ailleurs, que moi, j'avais une grande amie de mes grands-parents qui me disait, Olivier, pour faire un beau jardin, il faut 3 ans.
Minimum.
Ouais. Voilà.
Et pour la pivoine aussi.
Et la pivoine, et évidemment.
Et la dernière question étant, enfin, des couleurs sont-elles génétiquement impossibles chez les pivoines? Oui, pour le moment, il n'y a pas de bleu, ça n'existe pas. Alors, faire très attention, vous voyez des étiquettes de pivoine bleue dans les supermarchés, sur Internet, elles sont fausses, il n'existe pas de pivoine bleue. Voilà.
Il y a des roses bleues. Ou un peu violet, mais
oui.
Il me semble, moi je me souviens avoir une tante qui, sur son lit de mort, disait « offrez-moi des roses bleues ». On est dans un studio où le bleu est dominant, mais je pense qu'il doit y avoir des roses, mais est-ce que c'est vraiment naturel
ou pas?
Moi j'ai
une pivoine qui
s'appelle... Est-ce qu'on a des fleurs bleues, enfin à part le bleuet ou autre, mais vous avez une pivoine qui
Non mais j'ai une pivoine qui s'appelle Blue Rose, mais en fait c'est juste que son fuchsia est tellement dense, quand vous le regardez, il y a une pointe de bleu dedans, mais c'est une vue de l'esprit là, c'est faux. Non, il n'y a pas de pivoine bleue. N'achetez pas de pivoine bleue. L'année dernière, j'ai des visiteurs qui sont venus en disant « Ah ben quand même, nous on l'a payé 120 euros hein, sur le site Intel. » Je dis « Vous êtes fait avoir.
»
Il n'existe pas de pivoine bleue.
Un roman pas très connu d'Alexandre Dumas, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle « La tulipe noire ».
Oui.
On ne le lit pas beaucoup parce que
c'est
moins célèbre que « Les Trois Mousquetaires
».
Et ça concerne, ça se passe évidemment en Hollande au XVIIe siècle. Mais alors donc il y a des tulipes noires, des pivoines, il y en a qui sont, pour avoir visité souvent le jardin quand même presque noires. En fait, elles sont un pourpre très foncé.
Acajou, sont presque noires. Non, alors, il y a eu une confusion de genre parce que Robert Pardo, l'antiquaire dont nous avons parlé, qui était formidable, avait nommé son entreprise la pivoine bleue, mais... c'était un spécialiste des tableaux, il connaissait très bien.
Ouais.
Enfin, voilà, c'était une vision chimérique. C'était un
c'est
idéal.
Le rêve impossible.
Mais il était associé à...
Je me rappelle plus.
Je crois qu'il est associé à cet homme antiquaire très très grand qui est mort il y a très peu de temps maintenant et qui a épousé la petite fille de Franco.
Ah ben Rossi.
Voilà, et je crois qu'il est associé à Rossi, non?
Je connaissais bien, oui.
C'était un très grand antiquaire.
Voilà, je me permets de parler des antiquaires, bien sûr, avec notre ami. Oui, je crois qu'effectivement Pardo...
Un très illustre confrère et qui était aussi un
des
ami.
Des gens remarquables, des gens avec un goût... aussi digne que celui de Bénédicte et Jean de Foucault pour les pivoines. On parle bien sûr des pivoines du château de Sourches et on continue, ma chère Bénédicte. Alors, vous me dites que vous avez donc 4 petits fascicules que vous m'offrez gentiment.
Alors, le premier, nous l'avons évoqué.
On en a déjà évoqué, c'était effectivement l'hommage aux poilus.
Le deuxième consiste à un hommage à Nassos Daphnis, pardon,
d'accord,
je parle trop loin.
Je vous en prie.
Nassos Daphnis était un grec qui n'avait jamais vu de pivoine avant 1948, qui est allé livrer un tableau, c'est un artiste peintre, est allé livrer un tableau du côté de Buffalo aux États-Unis. Et il a vu pour la première fois des pivoines. Il n'avait jamais vu, jeune en Grèce, des fleurs comme ça. Il n'en avait jamais vu quand il était à New York, quand il est arrivé à New York. Et voilà, il a décidé du jour au lendemain, ben voilà, c'est ce que je vais faire. Donc il a peint des pivoines.
C'est un coup de foudre que vous nous racontez
là. Et il a
là.
Créé des pivoines, mais surtout il a créé des pivoines, il a fait des rétrocroisements botaniques, c'est-à-dire que lui, à l'imitation de Sanders, du professeur Sanders, qu'il a rencontré d'ailleurs, a tout noté. Donc on sait exactement quels sont ces croisements. Et énormément de péonistes aujourd'hui, pour améliorer le genre pivoine, se servent de ces travaux. Donc c'était c'est un hommage à Nassos Daphnis. Alors toutes ces pivoines ont des noms de l'Olympe, Héphaïstos, Hélios, Sappho, Daedalus, Dionysos.
Alors ces petits recueils, justement, les références que vous donnez là, vous les avez prises sur un, je dirais, par rapport aux plantes que vous aviez achetées. Vous aviez déjà les noms et vous êtes allé rechercher pour pouvoir le mettre dans
votre... Oui, j'ai acheté des pivoines de Nassos Daphnis. J'en ai trouvé une en Italie, j'en ai trouvé trois en France, j'en ai trouvé
avec un nom, bien sûr,
deux chacune. En Allemagne. Et à chaque fois, alors je vois des noms, je
noms.
Dis, c'est quand même bizarre pourquoi il a toujours des noms de l'Olympe. Enfin,
voilà, et c'est donc, pour ça que vous avez fait un petit recueil.
Donc j'ai fait un... Alors du coup, j'ai cherché pourquoi. Et puis j'ai découvert son histoire et... Voilà,
bien
et
évidemment.
Je trouve que c'est intéressant parce qu'il a apporté quelque chose à la pivoine, lui, vraiment.
Ensuite, alors ensuite.
Le troisième, c'est sur les péonistes français parce que je ne pouvais pas faire autre chose. Avant qu'ils disparaissent totalement,
il
fallait quand même...
Vous n'en avez parlé que deux, mais malheureusement, il n'y en a plus beaucoup.
Non, il n'y en a plus. Il reste la famille Rivière.
Voilà. Et puis celle qui est
Monsieur
à
Tricot, Tricot. Monsieur Tricot, c'est pas un créateur de pivoine.
Non.
C'est un horticulteur, mais c'est un bon horticulteur. J'y parle de Lemoine dedans, j'y évoque Cornu, Franchet et Henri, c'est ceux du Muséum d'Histoire Naturelle, parce qu'ils ont eu une importance capitale dans l'introduction des pivoines arbustives en Europe au XIXe siècle. Ils ont gardé les graines que l'abbé Delavay leur avait envoyées, et grâce à eux et Lemoine a été créé le premier hybride de l'UTA en Europe, enfin dans le monde.
Et
voilà.
Cet abbé vivait où ? Il était en colonie ?
Alors, l'abbé Delavay, alors, il était né... Alors, il était... J'ai oublié ce que j'ai écrit, hein, ça fait un moment.
Ben heureusement.
Donc, il était...
Faites autre chose.
Il intègre le petit séminaire de Saint-François de Sales et il est ordonné prêtre en 60.
Mais, 1860
oui, 1860.
Oui.
Mais il était botaniste dans l'âme et donc il a choisi des missions étrangères et notamment la Chine. Il y est mort, malheureusement, mais...
Il avait conservé... Des graines.
Ah ben non, il communiquait avec le jardin. À l'époque, c'était pas aussi compliqué qu'avec aujourd'hui avec les mails. Et il faut montrer patte blanche. À l'époque, le Muséum d'Histoire Naturelle reçoit une caisse de l'abbé Delavay et ils regardent, ils sont curieux, et ça
évidemment.
Les intéresse. Donc
ils ont pas tout classé. Les échanges internationaux de l'époque.
Les échanges internationaux de l'époque. Non, ce qu'il faut dire, c'est que l'abbé Delavay a eu une importance capitale. Voilà, je vous montre deux pivoines ici, une toute petite jaune et une toute petite rouge. Et c'est grâce à ces pivoines-là que l'histoire de la pivoine arbustive a changé radicalement.
Celle-là, je vais vous dire, je l'ai chez moi.
Eh ben voilà, c'est une toute petite, c'est une Ludlowie.
Une petite, oui, ouais. Exactement. Alors, j'en ai 4-5, je n'ai pas 3000 pieds
comme ça. Et dessous, c'est la Delavay. La Delavay, vous voyez son pollen, ses étamines sont rouges.
Ah,
c'est typique de la Delavay. Il y a qui a ça.
En fait, vous avez une fleur totalement rouge, avec effectivement les étamines toutes rouges également.
Voilà, il a trouvé ça en Chine.
Et ce qui n'est pas le cas...
Il est mort de fièvre, puis voilà. C'est
il avait dû pas manger de la pivoine, parce que c'est pas comestible, comme on disait
tout à l'heure. Il faut lire. Les lettres, il faut lire les lettres qu'il envoie, où il est pris de fièvre. Alors, je ne sais plus si c'est la fièvre jaune, la fièvre rouge, la fièvre je ne sais pas quoi, mais le palu, il meurt dans d'effroyables souffrances, monsieur, cet homme.
Non, ces petits documents sont passionnants. Si vous allez donc au 7 Hauts de Source, je pense que vous les vendez, ces petits documents.
Non, pas vraiment. Pas les vraiment. Gens ne lisent pas, vous savez. Non,
les gens ne lisent pas.
Ah, bah, ils sont à vendre, mais ils n'ont pas énormément d'acheteurs. Dommage, ils sont à vendre, on les vend à la petite boutique.
Ben, bien sûr.
Mais on ne peut pas dire qu'on a un débit très important.
Et le dernier,
c'est dommage.
Et le dernier parle de Toichi Ito, j'y reviens, parce que c'est l'avenir de la pivoine, donc c'est le croisement issu d'une arbustive et d'une herbacée. Voilà.
Vos visiteurs viennent vous interroger un petit peu sur
oui.
tout ça.
Oui. Oui.
Ça vaut toujours le coup de faire une question. Émission déjà à Radio Courtoisie, mais on peut peut-être aussi parler de...
Il pose toujours la même question. Pourquoi ma pivoine, elle ne pousse pas? Bon, alors, je vais répondre à tout le monde. Votre pivoine ne pousse pas parce que vous l'avez mal plantée ou que vous ne l'avez pas achetée dans un bon endroit. Voilà. Ou que les mulots ont déjà tout mangé dessous.
Oui. Voilà. Et il faut un peu d'air, je pense, quand même, autour de la pivoine. Moi, j'ai repris d'une de mes anciennes voisines un énorme pied de pivoine. Mmh. Au bout de 3 ans, elle commence effectivement à se réacclimater. Je pense que même un pied ancien, il faut savoir où on le met.
Oui, il faut bien... alors, si vous divisez une pivoine et que vous la replantez, alors d'abord, vous ne faites jamais ça entre le mois de février et le mois d'août. Vous attendez qu'elle soit en repos végétatif. Et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. De septembre à février, de septembre à janvier, vous pouvez diviser votre pivoine, la déplanter.
Comme
il n'y a aucun problème.
L'essentiel des plantes.
Voilà, comme toutes les plantes.
Comme toutes les plantes.
Et il faut bien la nourrir parce que la pivoine est gourmande. Donc quand vous la replantez, vous lui mettez un bon terreau bien nourrissant dans un endroit drainant. Et ça devrait aller.
Très bien. Donc, ce dernier petit fascicule, vous nous expliquez justement, et ça, vous me dites, c'est l'avenir de la pivoine, parce que, avec les recherches qui ont été faites, vous avez une évolution. Aujourd'hui, vous pouvez faire une hybridation supplémentaire.
Pour les hybrides intersectionnels, oui, parce qu'en fait, ils sont en train de réintroduire de la fertilité dans ces hybrides-là. Alors ça, c'est le professeur Smith aux États-Unis, c'est un petit peu ardu, mais c'est très important. Parce que, bah, imaginez qu'il y ait une bombe atomique demain, les pivoines vont résister, mais nous, on ne sera plus là pour les diviser. Donc, si on veut pérenniser la pivoine, il faut qu'elle soit fertile, ou en graines, ou en pollen. Et en l'occurrence, certains péonistes américains travaillent sur la réintroduction de la fertilité dans les hybrides, et notamment de la fertilité des graines.
La conservation se fait comment pour les graines? Ça reste dans des petits sachets ou ça...
Alors, je recommande, si vous avez des graines de votre pivoine, les graines sont contenues par les carpelles qui sont au centre de la fleur. Vous les voyez
tout
là.
Tout à fait, oui.
Bon, là, c'est un...
Bien
ça,
sûr.
Là, vous en avez. Hmm. Et au mois de fin août, ça dépend. Là, vu qu'on a 3 semaines d'avant, je pense que fin juillet, les graines seront prêtes. Donc, vous prenez le carpel, vous ouvrez le carpel et vous le plantez directement en terre.
Directement.
Dans un endroit, voilà, directement. Moins la gangue de la graine est en contact avec l'oxygène, moins elle durcit, plus le germe peut facilement traverser la carapace et se développer.
Voilà. D'accord. Ah oui.
Et... En général, au bout de six mois, ça a germé. Alors, 6 mois et 18 mois, c'est... au bout de 2 ans, ça a germé et vous avez une feuille. Une petite
ça,
plantule avec une feuille.
Vous mettez ça dans votre nursery.
Voilà.
Et c'est...
Ah oui, j'ai des bacs...
Complets
de petites...
Mais j'ai souvent entendu dire qu'entre la graine dont on vient de parler et la plante complète, il fallait 10 ans, non?
Alors...
Il me semble que c'est
oui,
très long.
Entre le moment où vous voulez créer une pivoine et le moment où vous la commercialisez, il s'écoule autant de temps que ça. Vous pollinisez votre pivoine au mois d'avril. Au mois de juillet, août, vous récoltez les graines. Ces graines, vous les mettez en culture, enfin en semis. Elles vont germer au bout de 18 mois. Elles vont donner une plantule au bout de 2 ans. Ensuite, cette plantule va se développer. En 3 ans, vous aurez peut-être une fleur. Donc, on est déjà à 5-6 ans, là. Vous aurez une fleur. Et vous n'aurez pas uniquement la même fleur, puisque vous avez pollinisé plusieurs graines. Donc, soit vous avez une fleur qui ressemble à la mère, soit une fleur qui ressemble au grand-père, à la grand-mère. Voilà. Et puis, il y a des plantes, il y a des fleurs qui vont être identiques, donc ça n'a aucun intérêt. Ce qu'on cherche, c'est la chose différente.
Bien sûr.
Alors, parfois, c'est pas couronné de succès, vous n'avez rien de nouveau. Donc, tout poubelle. De temps en temps, vous avez une pivoine formidable, telle que Coral Charm, dont quelqu'un a évoqué le changement de couleur. Et à ce moment-là, c'est une nouveauté, donc vous faites attention. Vous isolez le plant, vous le mettez en culture. Au bout de 3 ans, vous avez 2 plantes, puisque vous l'avez divisé au bout de 3 ans. Et ensuite, vous vérifiez que la fleur fleurisse toujours de la même manière, avec les mêmes caractéristiques, même couleur, même feuillage, même hauteur. Et enfin, au bout de 5-6 ans, vous pouvez déposer votre brevet, votre variété.
Mais ça fait plus que 10 ans dans ce cas-là en tout.
Oui, et alors après pour la commercialiser, en fait pour être bien, pour surveiller la stabilité de la pivoine que vous venez de créer, il faut au moins 5 à 8 ans. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des péonistes qui font des pivoines, notamment les Américains et les Hollandais. Vas-y, ils développent tous les 3, ils déposent tous les 3 ans. Donc en fait la stabilité, on n'en est pas sûr. Mais bon, c'est pas grave, c'est amusant. Oui. Vous achetez une pivoine rouge, elle devient blanche, c'est drôle.
Oui.
Bon, et après, il faut la commercialiser. Pour la commercialiser, vous n'allez pas vendre votre plan mère.
Non,
ni même
sûr.
Les 2 plans que vous avez, ni même les 5 plans que vous avez eus en l'espace de 15 ans. Donc après, il faut mettre en culture et voilà. Et créer une pivoine, c'est l'affaire d'une vie.
Un travail de longue haleine.
Voilà.
Je ne vais pas m'y lancer parce que sinon j'aurai 90 ans quand je pourrais les commercialiser.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un péoniste qui crée une pivoine, il y consacre une vie. En moyenne, il faut 20 ans pour rentrer, pour que ce soit commercialisable, c'est-à-dire que vous puissiez en vendre. Et quand les gens se plaignent parce que ça vaut 15 euros.
Ouais. Non mais c'est fou.
J'ai un peu envie de les taper. Oui,
bien sûr, voilà. Bien évidemment, vous avez raison. Voilà. Et alors vous, non seulement on peut admirer dans chez vous les pivoines, mais également vous en commercialisez par une entreprise. Non.
Moi, je vends pas de pivoines, moi je les conserve. Mais
oui, parce que conservatoire. Mais voilà. Vous avez quand même.
Mais Monsieur Tricot, parce que
Monsieur
tout le monde
Tricot
veut des plants de pivoines.
Bien sûr, oui.
Voilà, tout le monde veut des plants de pivoines. Je vais pas vendre les miens, sinon je les ai plus.
Bien sûr.
Et c'est pas mon
non,
métier de vendre.
Et puis c'est pas votre objectif.
Voilà, c'est pas mon objectif.
Mais par contre, les gens veulent sortir de chez vous.
Voilà.
Soit avec un petit bouquin, soit avec une plante.
Avec Coral Charm, avec Sarah Bernard, la plus belle des pivoines doubles roses.
Oui, parce qu'il y a aussi votre goût, quand même.
Oh, il y a pas. Alors, Sarah Bernard, c'est pas mon goût, c'est un goût international. Elle a été
commercialisée, quoi.
Elle a été créée en 1906 par Lemoine. C'est une pivoine française. Depuis 1906, c'est celle qui a été le plus vendue dans le monde chaque année, partout dans le monde.
Pourquoi ? Parce que ça a été bien commercialisé ou c'est parce que c'est une belle plante ?
Parce que c'est une belle pivoine.
C'est une belle pivoine. Oui, quand même. Les gens ne sont pas trop idiots, bien évidemment.
Non, c'est une belle pivoine.
Ah oui. Et donc, vous vendez des... Quand même, malgré tout, chez vous, vous vendez des pivoines
Qui sont toutes cultivées chez Monsieur Tricot à Orléans.
Très bien.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, il faut aller alors à la pépinière. Enfin, il faut téléphoner
Tricot.
À Monsieur Tricot qui vous recevra.
Et alors,
à
Tricot,
la pépinière.
Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il en vend dans le monde entier ou il
plutôt en France.
Plutôt en France.
Oui. Bah, en fait, ce sont les Hollandais qui.
Mais les Hollandais ont toujours été.
Depuis la tulipe.
Depuis la tulipe, oui, c'est ça. C'est
ils
ne
sont
ça.
Jamais arrêtés. Eux.
Ils ne sont jamais arrêtés.
Ils n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même fiscalité.
Là encore, oui, effectivement.
Les horticulteurs, ils sont taxés sur leur stock. Mais quand vous avez un stock avec une plantule de 3 cm et que vous êtes taxé sur votre stock, avec une plantule de 3 cm, sachant qu'il y a à peu près 50% de pertes sur 3 ans.
Oui.
Voyez, alors c'est bien gentil. Bon, voilà. Les Hollandais ne comptent pas comme nous.
Non, décidément. A priori.
Alors attendez, il y a une autre question. Quelle est la couleur d'origine de la pivoine ? Ma mère disait toujours rouge comme une pivoine.
Ah.
Ça, c'est une expression. Oui, il y a la rubra plena qui est une espèce qui est une officinalis. Il y a la rosa plena. Il y a plusieurs couleurs. Hein. La pivoine, les espèces botaniques, il y a du blanc, il y a du rose, il y a du rouge, il y a du jaune. Voilà. Autre question, la pivoine aime-t-elle les terrains plutôt acides ou calcaires ? Alors, j'avais dit pH de 7, donc pas acide. Calcaire, ça peut se débrouiller si on met un peu d'engrais. Il est étonnant que certains hybrides soient fertiles. Eh oui, justement, c'est à ça que travaillent les nouveaux péonistes.
Ah oui.
La nature est vraiment imprévisible. Alors, la probabilité, c'est 1 sur 1 million. Hein.
Ah, quand même.
Ouais, oui. Mais quand même.
Quand même, oui.
Ça marche.
Mmh, ça marche.
Puisque vous nous avez appris qu'une pivoine s'appelait Edith Cavell, dont une dans ma rue porte le nom, j'ai appris qu'Edith Piaf, née quelques mois après son exécution par les Allemands, lui doit son nom.
Ah, c'est possible, ça.
Oui.
C'est possible. Je le savais pas.
Tout à fait. On en apprend de nos éditeurs.
Voilà. C'est un échange.
Non, mais Edith Cavell, c'était une femme formidable.
Ah oui.
Oui, oui. Ben, je vous laisserai lire l'article.
On ira ça, bien sûr. Donc, pivoine. Et alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre belle propriété comme plante que vous avez peut-être découvert quand vous êtes arrivé à Sourches? Vous avez trouvé des arbustes ou autres...
On a des cèdres merveilleux, mais qui ont été plantés au...
Oui, il y a plus de 100 ans.
J'ai dit, étant donné leur taille qui est considérable, j'ai supposé pendant quelques années qu'ils avaient été plantés à la fin du XVIIIe siècle. Mmh. Ou en tout cas, en même temps que ceux de Châteaubriand à la Vallée-aux-Loups, c'est-à-dire il y a 200 ans.
Oui.
Et puis il y en a un qui est tombé un jour, il avait subi plusieurs orages, plusieurs tempêtes, il a pourri de l'intérieur, et un jour, il est tombé. Et ça nous a permis de compter les couches, et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas beaucoup plus de 160 ans. Ce qui laisse entendre qu'il avait été planté...
Au centre, c'est vachement dur à compter.
Ouais, c'est difficile. Mais il avait été planté probablement au milieu du 19e siècle. Or, il y a un événement qui se passe à Sourches au milieu du 19e siècle. La famille de Sourches, la famille du marquis de Sourches en ligne directe s'éteint. Et c'est une demoiselle du Boucher de Sourches qui épouse le duc d'Écart en 1845 et qui prennent le contrôle du domaine. Et on peut penser... que ça coïncide à peu près avec cette date. En arrivant à Sourches, ils auraient planté ces 7 cèdres magnifiques. Aujourd'hui, il ne nous en reste plus que 6, puisque je vous ai dit qu'il y en a un qui s'était écroulé. Il était immense, cet arbre, il était magnifique. Mais il était tellement grand qu'il attirait la foudre. C'était lui qui servait du partenaire pour tout le secteur.
Il a pris deux fois la foudre.
Il a pris deux fois la foudre, il était cassé. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il pourrissait de l'intérieur. On avait fait mettre une protection sur sa cassure, une protection métallique. Je crois qu'on a mis une plaque de cuivre. Mais le mal était fait. Et un jour, il est tombé. Un jour, calme, où il n'y avait pas de vent, où il n'y avait pas de truc. Et il a fini dans les douves. C'est-à-dire qu'il a écrasé quelques pivoines. Vous vous rendez compte du drame absolu?
Il y a une pivoine qu'on n'a jamais retrouvée. Même les piquets, on n'a pas retrouvé.
La nature est impitoyable.
La nature est impitoyable. On va faire une petite pause avec ce que vous avez choisi. Niccolò Paganini, donc, qui est un technicien exceptionnel qui a contribué à l'histoire du violon et également intégré les dimensions virtuoses dans l'art. Et ce charmant Paganini, que vous affectionnez, ma chère Bénédicte, était né en 1782 et mort en 1840. On va écouter un parfait morceau de musique au violon.
Et Paganini, ça fait penser aux abeilles dans le pollen.
Alors voilà. Alors pourquoi Paganini, vous m'avez demandé, parce que j'aime bien demander à mes sourciers, si je puis dire, des morceaux de musique pour à la fois nous distraire et bien sûr nous apaiser. Mais vous me dites que là, ça bat de l'aile?
Non, mais ça me fait penser aux papillons et aux abeilles. Toujours, regardez, une abeille qui s'acharne dans le pollen.
Oui, vous avez exactement, l'archet sur le violon. Oui, effectivement, c'est une belle comparaison. Benoît, vous voulez nous mettre un petit peu de Paganini? Thank you. Alors, nous continuons cette émission dont je vous rappelle que j'invite aujourd'hui Jean et Bénédicte de Foucault, propriétaires du très beau château de Sourches à côté du Mans, et dans lequel il y a le conservatoire de la pivoine, cette plante superbe, arbustive, herbacée et intersectionnelle, n'est-ce pas ? J'ai pris ma petite leçon. Et je vais passer la parole à Jean de Foucault, qui va nous rappeler quelques souvenirs qui vont faire plaisir aux auditeurs de Radio Courtoisie en parlant des processions de la Fête-Dieu.
Voilà, alors dans mon enfance, au château de Laborde, à côté de Beaune...
Sachez qu'il n'est pas si vieux que ça, hein. Il a quelques dizaines d'années, notre ami Jean de Foucault,
oui.
Donc c'est pas si vieux que ça.
Enfin, je fais partie de ce qu'on appelle le baby-boom. Il va falloir que je mette deux pièces dans le cochon,
oui,
puisque j'ai prononcé un mot anglais.
Attention.
Et voyez, c'est ça. Eh bien, quand j'étais enfant, il y avait, dans la paroisse, dans le village, il y avait des processions, notamment pour la fête Dieu. Et je me vois jetant à pleine main des pétales de pivoine devant les statues, dans les reposoirs. Et à l'époque, évidemment, je n'avais pas une formation en matière de fleurs extraordinaire. Mais je considérais qu'il n'y avait qu'une sorte de pivoine. C'était ces grosses pivoines grenats avec des têtes généreuses qui permettaient, comme un artichaut, d'en retirer les pétales et de les jeter avec toute la vigueur et la sincérité de l'enfance devant les statues de la Vierge dans les reposoirs.
Bon, voilà. Il en a encore le souvenir, mais je pense qu'il en
souvenir
a aussi
ému,
les convictions.
C'était des moments, j'allais dire des moments de grâce, mais je crois qu'on peut le dire.
Mais totalement. Rien que de regarder ces plantes, ces fleurs, ce sont des moments de grâce aussi. Grâce
voilà.
À Dieu, c'est le cas de le dire.
Et ça, c'est justement l'archéologie de mes connaissances en matière de pivoine. Depuis, j'ai beaucoup appris, notamment depuis que nous sommes à Sourches, avec Bénédicte a créé son fameux conservatoire.
Conservatoire. Alors, on devisait tout à l'heure en disant que dans les monastères, ben, ça a peut-être un rapport aussi entre les fêtes processionnelles et également la culture des plantes. Moi, je vois, il y a dans un monastère dans le sud-ouest de la France où il y a les iris, il y a un genre de conservatoire, mais vous pourriez nous dire aussi que dans les abbayes, on cultivait bien sûr les plantes médicinales.
Les plantes médicinales et la pivoine en fait partie. Je n'en connais pas les vertus.
Mais il y a des vertus. Enfin, elles existaient.
Hormis les vertus émétiques qu'on cite dans Homère, il y en a peut-être d'autres, ou astringentes que j'ai testées pour vous, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais c'est un fait que quand on cherche l'histoire de la pivoine en Europe, on a uniquement des références dans les monastères.
Et depuis quand ?
Ah, première référence que j'ai trouvée, c'est 12e, 13e,
c'est ça.
J'ai pas trouvé
très ancien.
Mais je pense qu'il n'y a pas d'autres écrits.
C'est le grand épanouissement monastique du 12e et 13e siècle avec la construction des cathédrales et le développement des grands ordres religieux.
Bien sûr.
C'est tout à fait normal.
Oui, donc on avait quand même des botanistes jardiniers. Vous nous parliez du père
De Lavey.
Il vous a connaissé d'autres religieux qui ont élaboré sur la pivoine, entre autres, ou c'est un grand classicisme.
Lui, c'est un ténor du genre, mais à brûle pour point, je ne trouve pas.
Et quelle place prend la pivoine dans la botanique ? Est-ce que c'est...
Une place infinitésimale.
Oui. Mais grâce à vous, un peu plus qu'infinitésimale aujourd'hui. Car grâce à vous, entre guillemets, vous avez des relations extérieures avec différents pays pour converser.
Les États-Unis, le Canada, oui.
Canada, l'Angleterre aussi un peu.
États-Unis, Canada, Angleterre, pas trop.
Pas trop. Vous privilégiez, entre guillemets
Eux, ils aiment le jardin. Souvent, les Anglais viennent pour le jardin parce qu'ils aiment bien l'atmosphère du jardin.
Ils ne cultivent pas, forcément.
Il y a quand même Kew Garden.
Le climat... Alors,
la
oui,
Reine
il y a
Charlotte.
Kew Garden. Oui, bien entendu, il y a Kew Garden qui a importé les premières pivoines arbustives en Europe.
C'est pas rien.
Mais non, c'est pour ça. Parlez-en un petit
Sir
peu, Kier Garden. Oui.
Sir Banks a fait importer, avait commandé en 1785 à des négociants de Canton d'importer des pivoines arbustives de Chine. Et donc, il y a eu un premier envoi en 87, mais ça avait été mal conservé, donc tout est parti au rebut. Et il y a eu un deuxième envoi en 94, et qui est arrivé à Kew Garden. Effectivement, il y a trois genres de pivoines qui sont arrivés à Kew Garden en 1794 en provenance de Chine. Et tout a commencé là, en fait.
Voilà, et ça continue aujourd'hui, ça se pérennise. Vous ne savez pas.
Les échanges entre l'Angleterre et la Chine, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas.
Et vous-même, vous échangez
Les Chinois sont très compliqués parce que maintenant, ils considèrent que 90% des plantes qui existent sur cette planète,
c'est eux.
On devrait leur donner des royalties parce qu'effectivement, on a importé beaucoup de choses de Chine. Il faut faire très attention. Je ne sais pas, je ne connais pas les relations.
Mais par contre, vous avez des relations, vous, avec d'autres...
Moi, j'ai des relations avec les Japonais, j'ai des relations avec les Chinois. Le professeur Hong, il n'est jamais venu, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, peu importe. Lui, il est très spécialisé en Rocky, donc visiblement, le reste... n'en a pas beaucoup de...
Mais pardon de vous interrompre, je croyais que le berceau historique et géographique de la pivoine, c'était Luoyang, en bordure du désert de Gobi,
non.
En Chine.
Non.
C'est une erreur.
Alors, à Luoyang, c'est devenu la ville de la pivoine.
Voilà.
Pour une on a exilé les pivoines à Luoyang parce que l'impératrice, j'ai oublié son nom, n'était pas contente parce que les pivoines n'avaient pas fleuri quand elle le voulait. Donc elle a fait exiler, elle a fait détruire toutes les pivoines de son jardin. En réalité, les jardiniers de l'époque ne les ont pas détruites, les ont toutes envoyées à Luoyang, donc elles sont parties en exil là-bas et c'est devenu la ville de la pivoine. Mais c'est pas endémique de là. C'est pas endémique de là. C'est le Gansu... Je ne connais pas suffisamment la géographie chinoise et je ne voudrais pas dire de bêtises parce qu'entre les termes chinois et les termes européens...
De parler brièvement du conservatoire botanique, du jardin botanique de Kiev, avec lequel vous avez eu des échanges très fructueux.
Ah oui, aussi.
Avec l'Ukraine.
Avec le professeur Gorobets.
Avant la guerre, évidemment.
Le professeur Gorobets, que je salue, mais je ne sais pas s'il y a Radio Courtoisie à Kiev aujourd'hui.
Peut-être
qu'on
en parlera.
C'est un charmant monsieur et il est venu à Sourche. Ça n'a pas été simple de le faire venir, mais il était très content. Il était heureux. Il a créé quelques pivoines qui sont sédentarisées maintenant à Sourche. Et voilà, donc lui, il s'occupe encore d'ailleurs. Ça fleurit, les pivoines. Il y a pas besoin. Enfin, la guerre n'arrête pas la floraison des pivoines.
Heureusement.
Et donc, il doit se réjouir, je pense, de la floraison de ses pivoines. Et de celle que je lui ai envoyée d'ailleurs, parce qu'on a fait des échanges.
J'ai vous demandé, vous faites des échanges avec de différents pays
en général, l'Europe de l'Est demande des pivoines américaines. Moi, je demande des pivoines d'Europe de l'Est. Donc, on fait des échanges, puisque je suis au milieu.
Mais bien sûr.
Le truchement entre les États-Unis et eux.
Et ces échanges sont très riches. Ça vous permet... d'apprendre des choses assez étonnantes sur les climats, sur la façon dont c'est disposé.
Ça vous a
conforté dans ce que vous faisiez, parce qu'il faut beaucoup d'humilité. Une pivoine, vous ne savez pas d'une année sur l'autre ce que vous allez avoir.
Le maître mot de la pivoine, c'est humilité.
Humilité, dans nos métiers, mon cher Jean. Hein.
Humilité.
Voilà. On est bien obligé, hein, même si on avait envie de faire le contraire. Ouais. On est ramené à la sagesse.
Et quand la pivoine pousse... Il ne faut pas dire « j'ai bien fait », il faut dire « elle a bien
fait ». Elle a bien fait, bien sûr. On est très admiratif.
Voilà. Non, juste ce que je voulais dire, puisque vous me parliez tout à l'heure de la réputation de la pivoine. En fait, c'est très compliqué la pivoine, parce que jusqu'en 1953, elle était considérée comme faisant partie des renonculacées.
Ah.
Donc, c'est pour ça qu'il y a une réelle confusion dans les termes au 19e, et avant d'ailleurs, Linné l'a classée comme Peonia, mais la famille botanique n'a été attestée qu'en 1953.
Parce que ?
Et on y a mis arbustive et herbacée. Jusqu'alors, elle était une sous-famille des renonculacées.
D'accord.
Donc ça, c'est important.
En 1953, on crée une famille spéciale,
voilà.
Peonia.
Peonia,
pivoine.
Et dû à quoi exactement ? À la réputation, au développement ou simplement... Ah oui.
Toishito ?
Ah, c'est le fameux.
Parce qu'en fait, Toichito, en 1953,
c'est
sa
lui,
petite plantule,
le père, oui.
Sa petite plantule a poussé. Mmh. Et elle avait un feuillage d'arbustive, mais elle a disparu comme une herbacée à l'hiver suivant. Et elle est réapparue avec un feuillage d'arbustive. Donc on a su que le croisement était fait et qu'il y avait une compatibilité génétique entre l'herbacée et l'arbustive. C'est pour ça que c'est devenu une famille toute à part entière.
Très bien. Donc vous allez continuer... à, je dirais, cultiver ces plantes. Vous avez de la famille, vos enfants, votre mari peut-être, bien sûr, mais vous avez de la famille qui éventuellement s'intéresse, vos propres enfants ?
Ma fille s'intéresse beaucoup aux pivoines parce qu'elle les trouve belles. Et puis en réalité, j'avais planté ce jardin pour elle parce que ma fille est née au mois de mai. Je me disais, je vais lui faire
bravo,
un beau bouquet
beau.
De pivoines.
Ah
voilà.
Oui, mais dites donc, puis...
Donc là, je dois dire, je ne suis pas persuadée qu'elle soit tellement ravie, parce que c'est tellement de travail.
C'est beaucoup de travail,
c'est
oui.
C'est beaucoup de travail. Donc, mais bon, elle a un beau bouquet de pivoines.
Alors,
pour
votre
son anniversaire.
Emploi du temps, ma chère Bénédicte, c'est quoi ? Vous commencez le 15 février, ou le commencez plutôt le 15 décembre à cultiver votre jardin ? Comment exploitez-vous ?
Tout le temps.
C'est en permanence, même en période, je dirais, de calme, du mois de septembre-octobre à janvier-février. Vous cultivez de quelle manière ?
Alors, du 1er mars au 1er décembre, il y a quelque chose à faire dans les pivoines. J'en ai beaucoup, en fait.
Bah
et
oui,
du coup, ça...
pieds.
Et puis, il y a de la place, et puis il y a plein de choses à gérer. Il y a les greffes, il y a les semis. Il y a les divisions, c'est...
Oui, ben c'est ça.
Et puis l'installation, en fait.
Et l'installation, vous avez encore beaucoup de place ?
Ah oui.
Vous avez encore ce qu'il faut.
Oui.
Quand j'étais venu chez vous, il n'y a pas encore très longtemps, vous aviez reçu très gentiment avec mon épouse. Effectivement, il y a encore de la place.
Il y a encore de la place, oui. Et ensuite, du 1er décembre au 28 février, on classe, on vérifie ce qui ne va pas, ce qu'il faut... déplacer l'année suivante, tout ce qui est en voie de guérison, ce qui doit être absolument déplacé ou surveillé attentivement, on écrit aux autres péonistes dans le monde entier et on prépare nos échanges internationaux, en fait. Parce que c'est juste à ce moment-là, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, c'est uniquement au mois de décembre, janvier, février qu'on est tranquille.
Oui, mais la plante, on ne la voit plus directement.
Non,
donc,
mais on a un cerveau.
Vous la surveillez.
Et puis on a des téléphones, voilà. On prend des photos. Et
vous la surveillez effectivement.
C'est à cette période-là que j'ai vu Bénédicte passer ses soirées, écrire ses livres. Parce que quand on ne voit plus les pivoines, on en parle.
On en parle et puis on a des belles illustrations.
Et alors elle fait des recherches et puis combien de fois je l'ai vu travailler l'hiver pour mettre au point ces petits fascicules que vous manipulez.
Ah,
là,
que je suis ravi de manipuler.
Alors le prochain livre justement, c'est... alors. Je voudrais faire un livre sur les têtes couronnées.
Ah.
Non, mais c'est amusant. C'est parce qu'en fait, vous avez une pivoine qui s'appelle Marie-Antoinette. Et je voulais mettre en parallèle le roi des Indiens. En fait, c'est sur les Amérindiens.
Et aussi Joséphine, alors.
Il y a beaucoup de pivoines américaines qui portent...
Oui.
Pardon.
Bien sûr, vous avez encore le temps, une petite minute.
Il y a beaucoup de pivoines américaines qui portent le nom de tribus amérindiennes. Et l'idée, c'était de mettre Tecumseh, qui est le prince, le jaguar prince des Indiens, avec Marie-Antoinette et ainsi de suite, faire un parallèle comme ça. Et un autre livre sur justement la météo et ce qu'on peut planter à tel endroit dans le monde. Mais ça, il faut que je l'élabore avec plusieurs personnes.
On se reverra, Bénédicte. Je vous remercie. Nous venons de parler avec Jean et Bénédicte de Foucault du Conservatoire de la Pivoine au château de Sourches. Sachez que vous pouvez y courir rapidement, car la saison est propice à cela entre maintenant, c'est-à-dire nous sommes le 20 ou 21 avril, jusqu'à la fin du mois de mai. Vous pouvez admirer toutes ces pivoines. N'hésitez pas à vous rendre donc au Conservatoire de la Pivoine au château de Sourches. À côté d'Iman. Je vous remercie tous. J'espère que vous avez été contents de parler de plantes et de fleurs avec des passionnés. Et je vous dis à dans un mois. Merci encore.
Vous venez d'entendre le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine à bâtons rompus, dirigé par Olivier Doutrebande, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 21 avril 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.